Merci, mon colonel. Sans plus tarder, nous allons passer aux questions et réponses. Je vous demanderai, comme d'habitude, de bien vouloir fermer vos téléphones ou de les mettre sur silencieux. Et à toutes les personnes qui vont prendre la parole, veuillez vous présenter, ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Je sais que vous avez beaucoup de questions, et pour nous permettre de répondre à un maximum donc de personnes, allez droit aux questions, évitez les commentaires, soyez bref, précis et concis, et on pourra ainsi répondre à beaucoup plus de questions. Nous allons donc commencer ici à Kinshasa en prenant la première question sur la droite.
Merci, KMBR de GR. Je pose la question à M. Wafi et à M. Bass. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé hier à Kibati à 11h d'après notre correspondant sur place? Il nous a rapporté que les casques bleus de la MONUSCO qui cherchaient à s'interposer devant les chars de FARDC qui voulaient à tout prix marcher sur les positions du M23, cette interposition a créé la colère de la population. On nous parle même de 4 blessés côté casque bleu de la MONUSCO. Et puis les accusations du Rwanda par rapport aux obus qui sont tombés à Gisenyi et consorts. Merci.
Ok, merci. Qui prend la question? Général, mon colonel, et ensuite le général va compléter.
Oui, je pense que je vais peut-être prendre la première question et le général traitera de la question relative aux obus qui seraient tombés au Rwanda. Effectivement, vous avez souligné une situation qui est quand même assez sensible dans la mesure où il y a eu une mésentente. En fait, les populations locales de la cité de Kanyarushinya ont eu une mauvaise lecture du déploiement, du réajustement du dispositif des troupes de la MONUSCO lorsque l'armée congolaise a initié son attaque après la capture de la colline nord qui était située en face de nos troupes à Munigi. Mais n'oubliez pas non plus qu'à Munigi, nous avons mis un déploiement de blocage avec des blindés légers et jusqu'à présent, nous tenions cette position. Alors, lors de cette offensive des FRDC, il a fallu à un moment ouvrir la barrière de Kanyarushinya, reculer pour permettre aux FRDC de continuer leur offensive parce qu'ils avaient déjà capturé à l'ouest la colline de Mutaho et ils venaient de capturer la colline du nord. Et cette colline du nord est en face de la position de la MONUSCO à Kanyarushinya. Donc nous avons tout simplement rebasculé nos forces légèrement en arrière pour permettre aux blindés de l'armée congolaise de poursuivre leur offensive vers Kibati. Donc voilà ce qui s'est passé. Il y a eu une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture, mais figurez-vous que tout ceci est en train de rentrer dans l'ordre parce que même des officiers FRDC se sont impliqués et ont eu à expliquer en swahili aux populations qui était l'ennemi, quel était l'apport et le concours non négligeable que la MONUSCO était en train d'apporter à leurs troupes. Voilà ce qui s'est passé à Kanyarushinya.
Merci. Monsieur Wafi.
Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi ce matin de prendre part à cette conférence de presse parce que, comme vous le savez, je viens d'être récemment nommé en qualité de représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en charge de l'état de droit ici en RDC, où j'étais auparavant en tant que chef de la police de la MONUSCO et j'ai eu à assurer pendant presque un an la même fonction à laquelle je viens d'être confirmé, mais en tant qu'intérimaire. Donc aujourd'hui, c'est ma première prise de contact avec vous, la presse, en cette qualité. Et je voudrais donc vous réassurer de mon entière disponibilité pour que nous puissions travailler ensemble. Pour en revenir à votre question, je voudrais ajouter par rapport à ce que dit le colonel Bass, c'était simplement une incompréhension. Les populations locales qui ont vu le mouvement des chars de la MONUSCO ont même pensé que la MONUSCO était en train de se retirer du dispositif. Spontanément, les gens ont mis des pierres, des barricades pour barricader, pour protester, pour demander à ce que la MONUSCO appuie les FARDC dans leur opération. C'était simplement cette incompréhension. À l'heure où je vous parle, la 8e région militaire, le commandement des FARDC, les notabilités locales, toutes les populations ont été mises à contribution pour diffuser cette incompréhension. Voilà de quoi il s'agit. Donc la situation est devenue calme, normale, et nous avons réaffirmé notre volonté de contribuer à sécuriser et à maintenir le dispositif offensif tel qu'il a été prévu en accord avec les FARDC. Vous comprendrez que pour les raisons de secret militaire, je ne puisse vous dévoiler les détails de ce dispositif. En ce qui concerne les accusations concernant le bombardement de certaines localités rwandaises, là aussi, nous avons diffusé un communiqué qui vous sera remis incessamment, communiqué par lequel nous rejetons totalement ces accusations. La MONUSCO n'a tiré aucun obus, aucune bombe en territoire rwandais. Nous avons invité le gouvernement et les autorités rwandaises à se mettre en contact avec les JVM, qui sont chargés de la vérification pour pouvoir s'assurer que ces allégations sont sans fondement. Mais je voudrais aussi saisir l'occasion tout de suite, vous donner l'opportunité, par rapport à toutes ces accusations contre la MONUSCO, contre la brigade d'intervention, je voudrais dire ici au nom de la MONUSCO que ces accusations, nous les rejetons en bloc. Elles sont sans fondement. Nous n'entretenons aucune relation avec aucun groupe, fut-il le FDLR ou autre. Je vous rappelle que notre mandat, c'est de neutraliser ces groupes armés, pas d'entretenir quelconque relation avec ces groupes-là. Et donc, par rapport à cela, ces accusations, nous les considérons comme extrêmement graves, mais nous les rejetons en bloc, et je peux, au nom de la mission, vous dire que la force de la MONUSCO, l'ensemble de la force, que ce soit la brigade d'intervention, que ce soit la brigade du Nord Kivu, nous n'avons aucune relation, aucun lien avec des groupes négatifs dont nous sommes censés neutraliser les activités pour assurer la protection de la population civile. Je crois que ceci a le mérite de la clarté, et vous allez voir dans les semaines et mois à venir les actions que la brigade va entreprendre, y compris contre les FDLR que nous considérons comme un groupe négatif, comme un groupe armé.
Deuxième question, pasteur.
Merci pour la parole, monsieur le porte-parole. Mon général, de toutes les façons, de prime abord, nous vous félicitons pour vos nouvelles fonctions. Ma question est de savoir comment se présente aujourd'hui la situation de la brigade d'intervention onusienne dans le Nord Kivu, des casques bleus attaqués, les M23 qui se déploient, où en sommes-nous? Sont-ils déjà en opération ou continuent-elles toujours à se déployer? Merci.
En ce qui concerne la force d'intervention, comme vous le savez, il y a trois pays contributeurs. C'est la Tanzanie, le Malawi et l'Afrique du Sud. En ce qui concerne les forces tanzaniennes et sud-africaines, elles sont actuellement entièrement déployées. Le contingent Malawi est en cours de déploiement. Comme vous le savez, on vous l'a dit à plusieurs reprises, ces troupes viennent de la Côte d'Ivoire où elles étaient en opération. Elles sont en train d'être redéployées au sein de la MONUSCO. Je peux vous dire à l'heure actuelle que la brigade, malgré qu'elle soit en cours de déploiement, qu'elle n'a pas atteint sa totalité, ni en termes d'équipement, ni en termes d'effectifs, est quand même engagée sur le théâtre des opérations, dans le cadre du dispositif pour contrecarrer les attaques du M23 contre la ville de Goma, et c'est ce qui sert de soutien arrière au dispositif du FARDC. Donc, actuellement, les éléments de la brigade sont déployés au niveau de Mounigui et en soutien au FARDC, au niveau de la localité de Moja. Et une partie va se déployer pour la situation dans le Grand Nord, notamment à Kamango et au niveau de Beni, pour pouvoir stabiliser la situation et apporter la riposte contre ces groupes armés. Mais encore une fois, malgré qu'elle n'a pas atteint la capacité totale, ni en nombre, ni en équipement, au fur et à mesure que les éléments arrivent, ils sont engagés dans les opérations pour sécuriser et protéger les populations de ces zones-là.
Prenons encore une dernière question sur la droite, RTNC.
Merci, c'est venant vous dire ça pour la RTNC. Ma question s'adresse au colonel Bass. Ça concerne la réforme du système de défense et de sécurité. Mon colonel, la fois passée, le bilan, il y a cela 2-3 mois, le représentant spécial, le général Ouafi, avait fait le bilan de l'appui de la MONUSCO, de la police MONUSCO, à la police congolaise, si j'ai bonne mémoire. Et vous-même, colonel, vous avez présenté le bilan, disons, l'appui de la force, disons, de défense à l'armée congolaise. Aux yeux des observateurs, ils constatent que malgré tout cela, c'est un pas en avant, mais le chemin reste encore long par rapport à l'appui à la réforme du système de sécurité. Qu'en dites-vous vous-même? Dernièrement, genre le dimanche, le mercredi, Sylvestre nous a parlé de l'afflux de Rwandais, disons de réfugiés ougandais, en terre congolaise, plus précisément dans la province orientale. Cependant, la RD Congo reconnaît encore qu'en 1994, elle a été victime de cette hospitalité en croyant accueillir le réfugié rwandais alors que c'était des militaires. Est-ce que la DDRRR qui s'occupe de la démobilisation, s'est-elle impliquée pour que les réfugiés, les 2500 Ougandais, soient complètement démobilisés, de peur qu'ils retournent leurs armes contre la population congolaise? Merci.
Merci, mon colonel.
Oui, merci. Concernant votre question qui a trait à la réforme du secteur de sécurité, je voudrais d'abord, avant d'y répondre, préciser que la réforme du secteur de sécurité est une volonté souveraine de l'État du Congo. Elle est initiée par le gouvernement congolais, appuyée, accompagnée par les partenaires de la RDC, mais particulièrement par la MONUSCO qui est là actuellement et qui, dans son organisation, dans sa structure organisationnelle, a bien une structure aussi bien militaire que civile qui s'occupe, en fait, de manière très globale, de ce point bien précis que vous avez nommé, qui est la réforme du secteur de sécurité. Depuis que nous sommes là, vous rappelez qu'il y a eu d'abord une première phase qui était la phase de régimentation que les autorités de la MONUSCO ont accompagnée et que, à l'issue de cette régimentation, des opérations conjointes avaient été initiées et qui étaient en train d'engranger des succès considérables, mais que les défections du M23 sont venues arrêter compte tenu des nouvelles urgences qui s'étaient dessinées. Alors, donc, sur ce plan-là, nous soutenons fermement, fortement, la République démocratique du Congo, d'abord en participant à la rénovation des infrastructures, des camps de déplacés, en travaillant en étroite collaboration avec les autorités de l'armée congolaise pour mettre en place un plan de réforme du secteur de la sécurité. Et nous avons aussi le centre d'entraînement tactique des bataillons qui a été mis en place avec l'appui de la MONUSCO et tout récemment, l'unité qui a été déployée au Nord Kivu, qui était entraînée au camp de Lubérizi au Sud Kivu, a été projetée et a produit des résultats remarquables. Donc, de manière très globale, sur ce plan-là, nous sommes toujours engagés dans la dynamique d'appui aux autorités congolaises dans la réforme de sécurité, du secteur de sécurité, tout en observant que, comme je l'ai dit, c'est d'abord une initiative du gouvernement congolais et les gens sont en train de mettre tout ce qu'il faut pour initier très récemment ces réformes du secteur de sécurité qui verra aussi dans ce cadre-là, d'ailleurs, la mise en place de cette force de réaction rapide qui est censée prendre le relais de la brigade d'intervention de la MONUSCO.
Alors, dans la même veine, pour compléter, je voudrais vous dire qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train de discuter sur un protocole d'accord avec le ministère de la Défense par rapport au centre d'entraînement tactique des bataillons qui verra la formation des bataillons qui doivent faire partie de la force de réaction rapide des FRDC. Et donc, ce protocole d'accord va fixer un peu, si vous voulez, les responsabilités et ainsi que les apports de chaque partenaire dans le cadre de la formation des FRDC. Et je pense que c'est une avancée assez importante qui mérite d'être soulignée.
Sylvestre?
D'abord, préciser une chose. Les personnes qui viennent de l'Ouganda, on n'a jamais affirmé que c'était des militaires. Il s'agit, à notre connaissance, des populations civiles qui fuient un conflit intercommunautaire dans le district d'Arua, qui viennent. Et au dernier chiffre donné par le HCR, il s'agit aujourd'hui de 2667 personnes. Donc, à notre connaissance, c'est pas des hommes en armes. Si, en répondant à la question la semaine dernière, on a fait allusion au programme DDR, c'est parce que dans la question, on semblait insinuer qu'il y avait des hommes armés parmi eux. Nous n'avons pas connaissance de cette situation, mais s'il y a des hommes armés parmi eux, ce n'est pas le mandat des humanitaires. C'est pourquoi je vous ai dit qu'ils relèveraient d'un autre programme qui est justement le DDR. Donc, je n'ai pas dit qu'il y avait des hommes armés parmi eux. Le HCR est actuellement sur le terrain. Depuis hier, il s'est rendu dans le territoire d'Arou pour justement commencer à apporter une première réponse à ces personnes qui se sont déplacées. Et on n'a pas d'informations à ce jour qui dit que les personnes qui ont fui l'Ouganda sont des personnes armées, sont des militaires. On n'a pas cette information.
Merci Sylvestre. Nous allons aller à Goma. Bonjour Goma.
Bonjour. Bonjour. C'est M. Okito Papi du journal Écho d'Opinion. Ma question, je l'adresse au colonel Bass, toujours à ce conseil canaroutinien. Le conseil provincial de la jeunesse confirme que le casque bleu de la MONUSCO ont tiré vers des civils, et il y a eu 4 morts. Alors pourquoi les casques bleus usent leurs armes vers des civils au lieu de s'attaquer par exemple aux M23 qui sont bien armés? Deuxièmement, aujourd'hui, pourquoi le militaire de la MONUSCO garde ses positions à Kanyarutinya alors que les FARDC sont déjà au-delà de Kanyarutinya? Merci.
Merci. Je pense que cette question avait déjà trouvé une réponse lors de notre dernière rencontre, mais je vais revenir là-dessus parce que la répétition est peut-être pédagogique. Et il serait bon qu'on recadre les choses. Alors donc, Kanyarutinya, il y a eu 2 événements à Kanyarutinya. L'un s'est passé le 6 et l'autre s'est passé le 10. Et même scénario, même mode d'action de ce groupe Mai Mai qui avait lancé initialement une attaque contre les positions du M23, aussi bien le 6 que le 10, qui ont été par 2 fois repoussé par le M23 suite à une contre-attaque qu'ils avaient lancée, et le scénario était le même. À un moment, ils ont commencé à tirer sur les populations civiles et à retourner leurs armes contre les positions de la MONUSCO. Nous avons exécuté notre mandat dans la stricte obligation qui nous a été faite par la résolution 2098, en procédant à l'application des règles d'engagement. Après avoir aussi tiré des tirs de exécuter des tirs de sommation pour prévenir ou en tout cas dissuader toute avancée de ces groupes armés vers notre position qui continuait à avancer vers nous pour tirer, et nous avons réagi et de manière ferme, d'abord pour protéger les populations civiles, mais aussi pour protéger le personnel des Nations Unies et assurer la sécurité et empêcher toute avancée de ce groupe armé vers la ville de Goma. La MONUSCO n'a jamais tiré sur les populations à Kanyarutinya. Il faut qu'on l'entende de cette oreille. Et à cet effet d'ailleurs, un communiqué avait été initié et par la MONUSCO pour clarifier cette position. Nous sommes au Congo pour les populations civiles, pour les protéger et non pour tirer contre ces populations civiles. Et j'avais même dit que pour moi, cette question, ou en tout cas cette préoccupation, était à la limite grotesque. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça. Deuxième question, pourquoi est-ce que la MONUSCO est à Kanyarutinya alors que les FARDC sont un peu après Kanyarutinya? Je pense que je viens de décrire un scénario qui est assez compréhensible dans la mesure où, premièrement, pour que les FARDC puissent avancer et poursuivre leur offensive, il a fallu avoir la certitude, ou en tout cas au plan psychologique ou au plan moral, il fallait être sûr que les arrières sont bien gardées, et les arrières étaient très bien gardées par la MONUSCO. La FIB a effectivement déployé des troupes pour prendre en compte la possibilité d'une manœuvre du M23 vers les camps de Bougounga, où sont les camps de déplacés. Nous avons fait blocage, nous avons consolidé notre position et nous étions déterminés à empêcher toute avancée du M23 vers les camps de déplacés de Bougounga. Donc, aujourd'hui, c'est les FRDC qui mènent une opération contre le M23. Mais il est normal qu'ils vont à l'offensive. Il est normal qu'ils aillent à l'avant. Nous avions bloqué Kanyarushinya avec nos véhicules blindés pendant tout ce temps-là. Et lorsqu'ils ont initié leur attaque, ils ont occupé, ils ont conquis la colline nord qui fait face à Munigi East. Ils ont progressé après avoir pris Mutaro qui était à l'ouest. Il a fallu leur ouvrir un boulevard d'offensive, une base d'attaque à partir de laquelle partir, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons permis au FRDC d'avancer et de tenir les positions au-delà de Kanyarushinya, parce que nous étions à Kanyarushinya. Je pense que ceci est très clair et facile à comprendre.
Deuxième question de Goma. S'il vous plaît, Goma, attendez une minute, un complément d'information de la part du général.
Parmi les éléments du M23 qui ont été arrêtés, l'interrogatoire a fait clairement ressortir que l'objectif de l'attaque, c'était de se diriger sur les camps de déplacés de Mugunga, de Kanyarushinya, pour créer le désordre et créer la panique de ces dizaines de milliers de déplacés internes pour converger vers Goma et attirer l'attention de l'opinion publique internationale. C'était ça un des objectifs de cette attaque que nous avons contré grâce à notre dispositif. Mais je constate que la brigade commence vraiment à déranger.
Oui, Goman, nous revenons vers vous.
Déranger. Ok, c'est Bernardin de Radio Okapi. J'aurais trois questions.
Deux questions, s'il vous plaît.
Oui, deux questions d'abord au colonel Bass. Il y a un communiqué du 1-23 qui est sorti hier, où ils accusent la MONUSCO d'avoir facilité au FRDC, la coalition, ils disent la coalition FRDC-FDLR, de mener une offensive contre leur position. Là, c'était hier, en leur donnant d'ailleurs l'autorisation d'utiliser les installations de la MONUSCO pour attaquer les M23. Et aussi les camps, certains déplacés qui sont dans les secteurs. Et quelle sera votre réaction à ça? Une deuxième question. Ce matin, à Kanyarushinya, les jeunes ont encore manifesté la colère dans la rue et accusant la MONUSCO d'avoir donné un ordre au FRDC d'arrêter les hostilités contre les M23. Donc, et pour eux, il y a un calme qui s'observe depuis ce matin sur la ligne de front, et que pour cette population qui manifestait, l'ordre serait venu de la MONUSCO pour dire au FRDC d'arrêter leurs offensives. La troisième question,
s'il vous plaît, merci beaucoup pour les deux questions. Le colonel va vous répondre.
Avant de répondre, c'est pas le colonel Basse, c'est nous qui décidons, pas le colonel Basse. Je voudrais simplement vous dire que, encore une fois, notre résolution, elle est claire. La résolution 2098 est claire. Le mandat de la brigade est clair. Nous n'avons pas d'ordre à donner au FRDC. Les FRDC sont l'armée d'un pays souverain. Simplement, la MONUSCO, la mission, a lancé un appel à toutes les parties impliquées pour éviter une escalade militaire et pour privilégier l'alternative, l'option politique pour aboutir à une solution pacifique qui puisse, dans le cadre de l'accord de paix, de sécurité et de coopération régionale signé le 24 février 2013 à Addis Ababa par les 11 pays de la sous-région, de donner une chance à la paix. Nous demeurons une mission de maintien de la paix. Et donc, dans ces conditions-là, même si nous avons un mandat d'imposition de la paix, nous préférons toujours privilégier la négociation, l'option politique. Et donc, dans ces conditions-là, c'est peut-être cet appel, ce communiqué que nous avons fait pour demander à toutes les parties d'user de leur influence pour que l'escalade militaire soit contenue. Et nous observons qu'aujourd'hui, le front s'est stabilisé, l'escalade militaire s'est arrêtée et les contacts politiques et diplomatiques vont continuer. Mais encore une fois, il n'est un secret pour personne, peut-être que pour le M23, que nous soutenons les FRDC, nous leur prodonnons des rations de carburant, nous planifions ensemble, nous les formons. Donc c'est notre mandat, c'est notre mission. Il va falloir s'en accommoder.
Oui, nous revenons vers vous à Goma. Nous prenons une troisième question de Goma. Allez-y.
Vas-y. À gauche, parle.
Ok, c'est Victor Bigatti pour le compte du journal Hebdo de l'Est. J'ai trois petites questions. Pourquoi les consignes n'ont pas été observées quand les négociations de Kampala se tiennent entre le gouvernement de la République du Congo et le M23? Et la deuxième question, quel est le bilan exact de ces affrontements puisqu'il y a contradiction entre les parties prenantes? Et la dernière question.
Merci pour les deux questions. Concernant, vous dites pourquoi on ne respecte pas les consignes de Kampala. Quelles sont ces consignes? Vous avez parlé de consignes de Kampala.
Les consignes de Kampala, c'est les respects des accords. Les respects des accords, les signatures.
Oui, je pense que vous faites allusion aux accords qui ont permis au M23 de se retirer de Goma et d'ouvrir les négociations. C'est à cela que vous faites allusion, certainement. Écoutez, nous, aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Nous avons, comme je l'ai dit, une nouvelle résolution. Nous avons un accord de paix qui engage l'ensemble de la région parce que la crise sécuritaire en RDC a des prolongements régionaux. On a la question de Kivu sans adresser la question avec l'implication des pays de la sous-région. Il faut que l'ensemble de la sous-région se mobilise, que la communauté internationale appuie pour le faire. Nous sommes, avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, Mme Robinson, avec la mission et l'ensemble des efforts qui sont déployés pour arriver à un accord qui soit mis en œuvre et qui puisse permettre la paix, la sécurité, la coopération, non seulement pour la RDC, mais pour l'ensemble des pays de la sous-région. C'est cela nos efforts, et c'est pour cela que souvent, on a l'impression qu'il y a un double langage ou un double discours quand on parle de la force, quand on parle de l'accord de paix. Non, les deux doivent être mis ensemble. La brigade est déployée, elle a ses missions militaires, elle a ses effectifs, elle va exécuter sa tâche, mais en même temps, nous voulons donner une chance de créer un environnement qui puisse permettre d'avoir une paix durable, une paix juste, une paix acceptable pour toutes les parties où l'intérêt de l'ensemble des partenaires soit pris en compte. Voilà notre démarche, voilà notre mandat.
Merci. Nous revenons à Kinshasa. Nous prenons la première question sur la gauche. Avec, nous commençons par une dame, Africa TV.
Laurette Mondal, Africa Télévision. Général Wafi, permettez-moi de revenir sur le combat qu'il y a eu à Kanyarushima. J'aimerais savoir que faisait exactement la brigade d'intervention lorsque le FARDC combattait contre le M23. Vous avez tantôt dit que la brigade assurait les arrières de FARDC. Ce n'est pas le rôle de cette brigade. La brigade est là pour neutraliser et combattre les groupes armés. On aurait bien voulu que cette brigade agisse maintenant pendant que le FARDC était en train de combattre. Et puis, j'aimerais savoir aussi si cette montée en puissance de FARDC n'échangera pas le mandat de la brigade.
Merci.
Écoutez, notre vœu le plus ardent, c'est que les FRDC soient en mesure de défendre le territoire congolais. Le jour où les FRDC auront cette capacité, la force de la MONUSCO n'aura aucune raison d'être en RDC. Cela dit, tel ne semble pas être le cas aujourd'hui. Raison pour laquelle cette force est déployée, ainsi que la brigade. Mais encore une fois,
c'est une question militaire, c'est une question de stratégie militaire qui est décidée conjointement avec l'état-major des FRDC. Et je pense que c'est les personnes les mieux qualifiées pour le faire, par la presse, par des civils, pour discuter du dispositif militaire ainsi que des opérations et la conduite des opérations militaires. Je pense que quelque part, il faut avoir l'humilité de laisser les experts le faire. Ce qui est en train d'être fait, le dispositif qui est mis, la distribution des tâches est faite conjointement avec la 8e région militaire et avec l'état-major général des FRDC ici à Kinshasa. Je ne veux pas rentrer dans des détails opérationnels, dans des secrets militaires, mais souffrir qu'on ne puisse pas tout dévoiler, ainsi que les raisons pour lesquelles il y a ces mouvements sur le terrain. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à l'informatique, grâce aux nouvelles technologies de l'information, les gens veulent participer directement même au combat, aux guerres. Ce n'est pas possible. Mais encore une fois, je veux vous rassurer, la brigade est déployée, la brigade est impliquée, la brigade joue un rôle, les FRDC le savent, je ne veux pas en dire plus.
Chez Nouvelle.
Merci, c'est Steve Oemi pour l'agent Chez Nouvelle. Moi, général, je me sens un peu perdu dans vos propos. Vous avez dit que la brigade a assuré la base arrière, donc à Kanyarushinya, donc la MONUSCO. Vous avez favorisé, donc poussé au FRDC d'aller en avant. Et puis, aujourd'hui, vous vous réveillez, vous dites au FRDC de ne pas aller. Mais vous faites quelque chose de son contraire. Pourquoi? Les FRDC ont récupéré des collines dans moins de 24 heures sans l'aide de la MONUSCO. Pourquoi ne pas les laisser aller libérer même tous les Rutshuru? Merci.
Bon, écoutez, encore une fois, je le répète, nous n'avons pas d'ordre à donner au FRDC. Deuxièmement, ce qui est fait, c'est un appel à l'ensemble des parties prenantes, y compris le M23 et tous les autres, pour éviter une escalade militaire. Nous ne voulons pas d'escalade militaire au stade actuel des choses. Nous voulons que les démarches politico-diplomatiques qui sont en cours puisse avoir une chance d'aboutir. La brigade est en train de se déployer. La brigade est en train de soutenir les FRDC dans ces opérations-là. Il vous souviendra que les FRDC ont été attaqués. Les FRDC n'ont pas pris l'initiative de mener le combat. Elles sont défendues et ont essayé de gagner des positions. Et donc, encore une fois, nous n'avons jamais demandé d'aller ou de ne pas aller. Ce que nous voulons, c'est donner une chance au processus de paix. Mais comme on dit, vous êtes de chez Nouvelle, les Chinois disent, qui veut la paix, il prépare la guerre.
Nous avons une dame ici. Vous pouvez avancer ici, s'il vous plaît. Avancez un peu pour qu'on puisse vous voir. B1.
Je suis Patricia Panzo de B1 Télévision. Puisque vous dites que les négociations sont une très bonne idée, quelle réponse la MONUSCO réserve à ceux qui souhaitent que Marie Robinson puisse être facilitatrice de ces concertations nationales?
Écoutez, en ce moment, il y a un débat au sein de la classe politique congolaise sur l'implication ou non de l'envoyé spécial ou d'autres personnalités ou de hautes personnalités extérieures. Mais encore une fois, au niveau de la mission, nous observons ce débat, nous écoutons, mais nous n'entreprenons rien sans la demande formelle et l'accord des autorités congolaises.
Voilà, je pense que nous arrivons au terme de notre conférence, nous avons légèrement débordé. Je vous rappelle encore une fois que nous avons notre collègue de la division des droits de l'homme, qui est de la division électorale, qui est ici avec les informations concernant l'utilisation des données électorales qui existent. Si vous voulez lui parler, il est encore là derrière moi, vous pouvez toujours l'avoir. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs, merci à Goma.